découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Docteur Stéphane Résimon sur Nutri Radio, chaque jeudi, en fin d'après-midi. Là on est en espèce de visio. J'ai coupé la caméra dès le début, vous avez vu? Tac. Je vais supprimer parce qu'il faut gagner en bande passante pour que les auditeurs nous entendent. Donc merci à vous d'ailleurs de nous écouter régulièrement sur Nutri Radio, d'écouter cette émission, de la découvrir. Hein, ça fait partie des nouveautés de l'année. Merci de vous abonner aussi sur Spotify si vous nous écoutez là par ce canal, sur Apple Podcast, de partager, d'échanger. Ça c'est bien. On remercie aussi notre partenaire, laboratoire Nutrilogix, spécialisé dans les compléments alimentaires qui sont formulés par un board scientifique de fous, incroyable. C'est des gens qui sont vraiment très experts et qui travaillent avec minutie les formulations, donc on les salue évidemment. Merci de nous rejoindre. J'ai l'impression d'avoir gagné un Oscar, un truc comme ça, et je dis merci, pas du tout, mais c'est le dernier. Merci à vous de nous rejoindre sur www.nutritv.fr, qui est un petit peu le Netflix de la santé naturelle, j'ai envie de dire tout modestement, avec des masterclass incroyables. Et on va vous retrouver bientôt, docteur Résimon, parce qu'on va tourner ensemble, me semble-t-il. Comment ça va?
Super bien, là je reviens d'une semaine de vacances-travail en Turquie, où j'ai des conférences tous les soirs sur divers sujets pour un grand public sur un bateau. Donc c'était assez original, c'était génial et c'était super agréable.
C'est la première fois que vous faisiez ça?
Non, c'est la cinquième fois.
Cinquième fois.
Et je suis tellement mauvais qu'ils m'ont réinvité à chaque fois, donc voilà.
Bon, c'est vrai, on est en train de travailler, nous, sur un petit concept aussi sur un bateau. Je crois que j'adore ces concepts. J'adore. Je pense qu'il faut, voilà, la santé, c'est partout. C'est dans... Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de dessiner quelque chose avec un stabilo?
Voilà.
Bon, allez, on va parler ensemble, mesdames, messieurs, aujourd'hui, le sujet du jour. On s'est dit, tiens, si on parlait de parasites, de déparasitages, vous savez que c'est des pratiques qu'on ne fait plus, qu'il faudrait faire, selon certains. Alors, j'essaie de ne pas affirmer quoi que ce soit, parce que vous savez, je suis non-sachant, mais le docteur Résimon nous donnera là, dans un petit instant, son avis. D'ailleurs, quand je dis dans un instant, est-ce que ces parasites, ces invités invisibles, sabotent notre santé?
Alors, dans beaucoup de cas, oui. Dans certains cas, les parasites pourraient être des saprophytes. Ça pourrait devenir des sinon, on pourrait être contaminé par des parasites. Ça pourrait avoir, dans certains rares cas, un effet bénéfique au niveau de la santé, prévention de certaines maladies digestives. Mais dans la vaste majorité des cas, ces parasites sont pathogènes, vont entraîner des symptômes qui peuvent être gastro, qui peuvent être cutanés, donc dermato. En effet, énormément de pathologies dermato sont directement liées à la présence de parasites. Et il y a un collègue français que je n'ai pas encore rencontré physiquement, mais je le ferai le week-end prochain, lorsqu'à Lyon, il y a une grosse convention sur le SIBO, et je l'ai invité, et c'est le professeur Humbert. Donc Humbert est un prof en dermato français, il habite Besançon, il est très très connu en France, il vient d'écrire un bouquin sur les parasites au mois de mars, et on a fait un live ensemble, alors que j'étais en Turquie, j'étais à Istanbul, on a fait un live tous les deux sur divers sujets, dont les parasitoses, et c'est un gars donc que vraiment j'admire sa façon de voir les choses, très simple, très terre à terre, très pratique, pas de théorie mais de la pratique, et apparemment c'est ce qu'il appréciait chez moi également. Donc on s'est bien trouvé tous les deux et on va se voir à Lyon donc week-end prochain.
Très bien, bah on est ravis d'avoir votre emploi du temps. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de ce rendez-vous, Nutri Radio sera présent au congrès du microbiome à Lyon, puisque nous sommes partenaires. Mmh. Donc merci pour nous tendre la perche de cette auto-promo. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site nutriradio.fr. Parce que là, on est quoi, jeudi? Donc si vous y allez, l'événement n'est pas encore terminé. Bon, alors ces parasites, juste, On sait maintenant qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Avant, on considérait que les bactéries, c'était mauvais. Est-ce que les parasites, et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, dans certains rares cas, c'est bénéfique ? Est-ce que quelque part, on en sait déjà suffisamment pour les classer toutes dans le même panier ? C'est-à-dire, elles sont pas bonnes. Enfin, ils sont pas bons, ces parasites. Et est-ce qu'on pourrait pas découvrir d'ici quelques années qu'en fait, c'est pas parfois bénéfique, mais ça peut être très bénéfique aussi ?
Alors, c'est possible. Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Certaines pathologies, comme on l'a dit, de Crohn, pourraient être moins agressives si certains parasites sont présents. Néanmoins, on considère pour l'instant que les parasites, c'est pas bon. À un point tel que nos ancêtres, qui étaient quand même, qui avaient une énorme pratique, puisqu'ils ont été nos ancêtres pendant des millénaires, déparasitaient, en tout cas en Europe, systématiquement, dans les petits villages, on déparasitait tout le monde, surtout les gosses, une à deux fois par an. Et on commence à revenir à cette pratique actuellement. Moi, je déparasite chaque jour. Quand j'ai des consultations pleines, je déparasite 2 à 3 patients. Soit que je sais qu'il y a des parasites parce qu'il a fait des tests, soit que je ne le sais pas. Mais il y a des symptômes bizarres et surtout des symptômes qui peuvent être cutanés. L'eczéma, mais également le psoriasis également peut être lié à la présence de parasites.
Pourquoi on attrape des parasites alors qu'on a une hygiène de vie correcte, on va dire ?
Il suffit de pas bien pas cuire assez le poisson, la viande. Or, on a tendance à manger plutôt cru, viande, poisson. On mange des sushis, des sashimi où le poisson n'est pas du tout cuit, et on peut se choper de solides parasitoses difficiles à guérir avec ce genre de pratique. Et également le simple fait, on peut se choper des parasites par son chien, son petit chat. Hein, et il y a pas mal de gosses qui sont parasités par le petit chien qu'on leur offre à leur anniversaire, ou par les chats. Également la viande pas assez cuite, mais également ça peut être une transmission fécorale. Donc on va aux toilettes, on s'essuie le mieux qu'on peut, et puis on se lave pas très bien les mains sur des parasites. On peut le filer aux autres par des objets que l'on touche par la suite. D'accord, que ce soit des poignées de porte ou des instruments de cuisine.
Ah oui, ça se propage comme une traînée de poudre en vérité.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on déparasite quelqu'un dans une famille, parce qu'on a prouvé qu'il y a un parasite, on a intérêt à déparasiter tout le monde, en fait.
Ah, ça c'est intéressant. Et alors, autrefois, comment on déparasitait ?
Alors, disons que moi, je sais ce qu'on fait actuellement. On a le choix, j'y rentre la phyto et l'allopathie. Moi, personnellement, quand je donne un traitement déparasitaire, je fais un mixte allo et phyto. Disons qu'en allopathie, on est vraiment certain du résultat, et on fait parfois pour certains parasites des cures répétées, donc on le fait tous les 15 jours, on en refait une 15 jours après, voire un mois après, selon le cycle du parasite en particulier, et on peut faire un seul cycle et y associer de la phyto pendant quelques semaines, ça marche également. Et c'est ainsi que j'ai eu des histoires très rocambolesques. J'ai prescrit par exemple l'ivermectine. Enfin, j'en ai prescrit beaucoup quand le Covid était assez grave cliniquement, donc assez important. Patient très impacté. J'associais ivermectine et azithro. Et à deux patientes qui m'ont rapporté avoir trouvé dans leur toilette, dans les jours qui ont suivi, de grands ténias, donc de grands vers intestinaux qui étaient présents. Et puis ils se sont évacués par l'ivermectine prescrite pour le Covid, mais qui a en fait tué le parasite présent.
Alors, on rappelle que vous êtes en Belgique, cher Stéphane Résimon, on rappelle que vous êtes en Mexique, au Mexique. Vous voyez, vous me faites bégayer, oui. Il y a des mots comme ça, ça me fait bégayer.
C'est-à-dire ?
Parce que, vous savez, il y a eu cette grande polémique à l'époque, savoir comment il fallait traiter le Covid, pourquoi. Donc, on est tous traumatisés. Moi, je suis un trauma du Covid. On est tous des traumas du Covid. Bref. Donc, et donc, ça a permis de déparasiter. Donc, ça voudrait dire que...
Tout à fait.
Ok. Et ça veut dire... Mais attendez, là, vous parlez de le ténia, mais ça, on a quel type de parasite dans notre corps ?
Mais attention. Attention, même la FDA aux États-Unis a reconnu il y a quelques semaines que ce médicament antiparasitaire était une solution adéquate pour traiter un Covid. Donc c'est officiel, il n'y a plus de doute.
Ah, ouf. Dites-moi, quel type de parasite on a dans notre corps, en fait ? J'imagine le pire, là, c'est quoi ?
On peut avoir des protozoaires, c'est des parasites unicellulaires. On peut avoir des vers plats, des vers ronds. Donc il y a pas mal de pathogènes différents. Il y en a quand même pas mal qui peuvent venir des animaux, qui peuvent venir des aliments également. On en a pour toute une série.
Et il y a des analyses fiables aujourd'hui pour savoir où c'est une analyse générale ou c'est des analyses spécifiques par parasite.
Alors, Alors le problème, c'est que il y a un examen qui est très très connu depuis la nuit des temps, c'est l'examen direct des selles. Donc on envoie un peu de ces selles au laboratoire et là il y a quelqu'un qui va au microscope aller regarder s'il voit des parasites, s'il voit des œufs. Et en gros, on loupe à peu près 80 à 90% des parasites. C'est-à-dire qu'on a 8 à 9 chances sur 10 de passer à côté, alors que le parasite est bien là. Et il y a de nouvelles techniques qui sont en train d'être évaluées, mais qui semblent bonnes, ça semble bon. C'est analyser par PCR les selles. Et donc, il y a des labos qui commencent à émerger aux États-Unis, pays nordiques, en Espagne. Télétest, par exemple, en Espagne, qui est le labo de référence pour l'instant en Europe. Et ils font ce qu'on appelle un parasitome. Donc, en fait, un parasitome, ils détectent avec la PCR quelques dizaines de parasites. Et c'est un test qui a l'air assez fiable. La Société française de parasito vient d'écrire un article concernant ce test. Et s'il est en train d'être évalué. Et en tout cas, cliniquement, chez les patients que j'ai envoyé faire ce test, j'ai eu des résultats extraordinaires avec parfois présence de 1, 2, 3, voire 4 parasites différents, alors que le patient n'avait aucun symptôme pouvant faire craindre une parasitose. Et même Humbert, donc qui est devenu un des leaders du parasite, il est en train de se dire qu'il va probablement utiliser ce test également.
Alors c'est PCR, c'est quoi? C'est les trucs qu'on a eu justement pendant le Covid, on nous mettait dans le nez là?
Exactement, exactement. Ça détecte des micro résidus de parasites dans les selles. Donc, des infimes particules issues du parasite sont détectées dans les selles. Alors c'est un test qui, dans certains cas, comme pour le Covid, surdiagnostic, puisque il suffit d'avoir fait un Covid 3-4 semaines avant, il y a des restes de Covid du virus qu'on trouve dans le nez, dans la gorge, et la PCR est positive, mais le patient n'a rien. Il est guéri, il s'est guéri tout seul de son Covid, comme la plupart des cas. Par contre, pour les parasites, ça semblerait tout à fait fiable, parce que même s'il y a une parasitose dans les mois ou années qui a précédé, les chances qu'il y ait des particules encore présentes de parasites dans les selles sont semble-t-il nulles.
Très bien. On va, ça c'est intéressant. On va suivre évidemment l'évolution grâce à vous. Hein. Dès que vous en savez plus, vous tenez au courant. On va marquer une toute petite pause et dans un instant, vous allez revenir sur les moyens en phyto pour peut-être favoriser ce déparasitage. Alors évidemment, les informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, mais voilà, quelques pistes à source informative de savoir comment la phyto peut aider l'allopathie dans ce déparasitage. C'est sur NutriRadio dans un instant, ne bougez pas.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio.
La suite de cette émission avec le docteur Stéphane Résimon sur Nutri Radio, on parle de parasites aujourd'hui. Il y a un sujet qui revient sur le devant de la scène, le parasitisme. C'est vrai que c'était une coutume un peu oubliée qui semble quand même assez indispensable. Et on approche et on aborde maintenant plutôt les approches en phytothérapie. Alors évidemment, je le rappelle, ça c'est très très important. Est-ce que Pollux peut-être peut venir à ma rescousse, hein? Ça c'est bien. Hein.
Salut, moi c'est Pollux. Alors n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Voilà, le côté réglementaire sur Nutri Radio number one. Alors en phyto, quelles sont les approches intéressantes?
Eh bien... Alors, elles sont nombreuses. On va combiner plusieurs plantes différentes pour avoir un bon résultat. Mais je voudrais quand même encore dire une chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Il y a quand même un test, un examen biologique qui peut être très intéressant. C'est la présence d'éosinophiles dans la prise de sang. Les éosinophiles sont les globules blancs qu'on appelle de l'allergie. Mais en fait, dès que c'est un certain niveau, au-dessus de 5, 6, 7%, eh bien, ça peut signer une parasitose. Le problème, c'est qu'ils sont présents au début de la parasitose, mais dans les mois qui suivent, ils peuvent disparaître. Et donc, c'est un test qui est génial. Quand on l'a positif, génial, il y a un parasite, c'est quasi sûr. Mais s'il est négatif, ça ne veut encore rien dire. Il y a un autre symptôme clinique qui peut être utilisé et qui est très facile, c'est ce qu'on appelle le prurit anal. Donc en gros, parlons simple, c'est le cul qui gratte. Donc, dès qu'on a du prurit anal, évidemment, ça peut être une candidose, mais ça peut être également la présence de parasites, d'oxures, par exemple, les petits vers, ou en effet, les petits gosses, et qui ont ça, qui bougent sans arrêt sur leur chaise, ils ont l'anus qui chatouille, et ils font des drôles de mouvements. Ça, il faut attirer l'attention sur la présence d'oxures potentielles. Et donc, outre les traitements allopathiques, mais qui sont tout à fait sûrs et très très peu d'effets secondaires, néanmoins, certains ne peuvent pas être donnés dans le cadre d'une grossesse présente ou à venir. On a en phyto toute une série de substances comme l'ail, l'aïcine, extrait de l'ail, la grenade, le neem. On a également le curcuma, le gingembre. L'aubépine, extrait de feuilles d'olivier. On a également l'aïoan, qui est une plante intéressante, le noyer noir, le clou de girofle, l'artémisia, les graines de papaye, graines de courge. Donc on a plein de substances possibles. Et on va les associer, on va mettre 4, 5, 6 ensemble, voire plus, pour avoir un effet qui va être synergique.
Alors, est-ce qu'il faut faire des cures de parasitage régulières? Est-ce qu'on prend ça tous les jours comme ça, histoire d'anticiper? Est-ce que c'est seulement quand c'est diagnostiqué? Comment ça se passe en phyto, hein, je parle, hein?
Trois façons de voir les choses. Soit il y a des drôles de symptômes. Le patient a un eczéma, il a un psoriasis, il a des éruptions dans le visage, éruptions sur le bras, l'épaule. Et le dermato, comme malheureusement très souvent, il va donner une pommade corticoïde, une pommade antimycotique, et ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment penser une parasitose. Et ça vaut vraiment la peine de d'abord faire un déparasitage, car dans certaines pathologies cutanées, à 8 fois sur 10, ces problèmes cutanés vont disparaître avec le traitement antiparasitaire. Donc voilà, donc on a des symptômes cliniques bizarres, on a des sueurs nocturnes, on associe à des problèmes intestinaux, par exemple. Autre façon, c'est de se dire, allez, je fais une recherche, j'ai un manque de défense immunitaire, j'attrape beaucoup de maladies, et je vais faire une recherche par PCR sur les cellules. Ça s'appelle le parasitome. Un peu qu'on fera un métabolome pour les bactéries. Et alors, l'autre cas de figure, c'est de se dire que, ben voilà, je viens de voyager, je viens d'aller à Bali, je viens d'aller dans un pays africain, en Amérique du Sud, et je rentre et j'ai probablement un parasite parce que j'ai mangé des choses pas très claires et je me déparasite d'office.
D'accord, très bien. Bon, donc changement de pays avec des habitudes alimentaires, ouais, qui vont varier. Soit effectivement des petits symptômes comme vous les avez décrits, mais sur le côté phytothérapie. Moi, j'insiste sur tous ces ingrédients. Est-ce que il y a des profils, par exemple, qui sont plus concernés pour que ça fonctionne? Question un peu bizarre, j'en conviens. Mais est-ce que vous avez compris? Est-ce que les produits phyto là, que vous avez cités, enfin les plantes, elles sont efficaces sur tout le monde, ou il y a des profils ou pas du tout?
Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais c'est vrai que le parasite ne va pas s'implanter dans n'importe quel intestin. Il faut déjà qu'on ait un intestin abîmé, en mauvais état, inflammatoire. Et donc, dès qu'on a une dysbiose bactérienne ou fongique, parce que le fait d'avoir une candidose peut favoriser l'apparition de parasites, eh bien, c'est un terrain propice à l'implantation des parasites. Ils vont s'accrocher là où il y a des lésions dans l'intestin.
Ah, ça, c'est important. Donc, ça veut dire que le parasite, pour avoir des parasites, ça veut dire que déjà, on a des intestins qui sont dysfonctionnels.
Déjà abîmé, on peut avoir des leaky gut assez inflammatoires parce qu'on mange de l'avoine, parce qu'on mange du gluten, des produits laitiers, des faux sucres. Donc dès qu'on s'abîme l'intestin avec des produits toxiques, ça favorise la parasitose. Et alors, chose étonnante, c'est que il y a une pathologie intestinale qui est très difficile à guérir, c'est la candidose intestinale. Le fait d'avoir une prolifération fungique de candida albicans dans l'intestin, avec un excès de candida, eh bien, parfois, on arrive difficilement à débarrasser le patient, il rechute tout de suite. Eh bien, il faut penser une parasitose associé, parce que la parasitose va l'empêcher de guérir de sa candidose.
Alors, vous savez qu'il y a un médecin qui a sur les réseaux là, qui a il y a pas très longtemps, qui a dit que la candidose, ça n'existait pas.
Ouais, ça c'est j'ai vu ça. Scandaleux.
Qu'est-ce que vous Scandaleux. En pensez? C'est fou quand même ça.
J'ai vu ça.
Vous faites la guerre entre médecins, mais arrêtez. Asseyez-vous sur une table.
C'est un gastro, d'ailleurs Vincent Renaud lui a très très bien répondu.
Bon. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les conseils santé, on n'en peut plus, il y en a partout sur les réseaux, il y a même sur TikTok des cures au clou de girofle ou à l'ail. Attention, les conseils TikTokers, les trucs, la médecine sur TikTok. Attention, n'est-ce pas, docteur Résimon?
Attention à...
Attention à ces conseils TikTok, il y a des cures, là, vous savez, ça dépend qui les donne, mais il y a des gens qui suivent à la lettre ce qui se passe sur TikTok, par exemple.
Oui, mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du très très bon.
Oui, très très bon.
Mais il y a aussi du mauvais, c'est-à-dire chacun a sa petite solution, sa petite cure, et va le promotionner comme si c'était la solution à tout. C'est faux, déjà, on ne traite pas une parasitose, c'est qu'un seul produit phyto, il faut en associer plusieurs. C'est des traitements qui sont longs, c'est plusieurs semaines, c'est pas en deux jours qu'on guérit une parasitose avec la phyto. Même en allopathie, on les traitements en minutes, il faut vraiment des antiparasitaires allopathiques très très lourds et associés pour qu'ils puissent être efficaces, comme l'albendazole plus l'ivermectine par exemple. Mais en phyto, c'est pas avec une petite cure et qu'une seule molécule ou deux molécules qu'on va y arriver.
Très bien. Donc c'est pas. On rappelle que la phyto. On rappelle. Je vous pose la question pour que vous me confirmiez. La phyto n'est pas suffisante en cas de parasitose chronique. Il faut recourir aussi à des antiparasitaires allopathiques.
Alors, j'irai pas jusque-là, mais ça demande quand même confirmation. On est en plein dedans actuellement, on est en train de voir si les complexes qu'on a sur le marché fonctionnent, à combien de pourcents ça marche. Donc, on est en train
à voir
avec le temps.
Affaire à suivre, et vous nous tenez au courant, bien évidemment, cher docteur. Ça, c'est vrai que c'est un vrai thème, hein, une vraie trend, on dira, sur ce déparasitage. On en parle de plus en plus. De toute façon, on a les intestins de plus en plus abîmés, donc c'est pas illogique que ça redevienne un gros sujet d'actu que faisaient nos ancêtres auparavant. On fera une émission sur ce qu'ils faisaient avant. Tiens, attendez, vous savez quoi? Je fais en direct, hein, mesdames, messieurs. Je vais demander à ChatGPT. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, évidemment. Hop, qu'est-ce qu'ils faisaient nos ancêtres avant, alors? Vous êtes curieux de la réponse ou pas du tout?
Ouais, mais je me doute, mais voilà.
Alors, en médecine ayurvédique, en Inde, ils utilisaient l'utilisation de neem, de curcuma, de triphala et de lavement. Oui. En médecine chinoise, formule à base d'armoise, ail, racine amère et pratique de purge saisonnière. Oui. Médecine africaine et amérindienne, décoction de plantes amères, écorce, graines à mâcher, bon, ça reste quand même assez vague là. Et en Europe traditionnelle, infusion de tanaisie, d'armoise, d'ail cru, de lait, plus graines de courge chez les enfants. Alors quand on vous a dit que les produits laitiers, c'est pas bon, et à l'époque, c'est quand même du lait et graines de courge. Pour ma part, c'est un peu contradictoire, mais bon, en tous les cas, on va peut-être creuser la question. Si vous voulez qu'on.
Alors.
Oui, dites-moi, docteur.
Alors, en gros, dans les molécules qui viennent d'être évoquées par ChatGPT, il y en a 8 sur 10 dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et voilà, il est là, le docteur Stéphane Résimont, il est là, efficace. Merci beaucoup, en tous les cas, on va se retrouver la semaine prochaine. On va repartir sur l'hormonologie, sauf s'il y a un sujet qui surgit d'ici là. Vous savez, le docteur Résimont, il faut le dire, il n'est pas compliqué, il est très adaptatif et il est très réactif, et ça, on adore. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, à bientôt.
Cette émission, vous la retrouvez en podcast tout de suite sur nutriradio.fr. Si vous voulez nous faire des petits commentaires, vous n'hésitez pas. Si vous voulez nous envoyer un message, rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie contact en précisant l'émission Santé 360. Et on peut répondre aussi à vos questions. Hein, on est là pour ça. Donc, vous n'hésitez pas. Les commentaires, les questions, les interrogations, nous sommes là pour y répondre, évidemment. Et dans un instant, c'est le retour de la musique.
Santé 360, Stéphane Résimont sur Nutri Radio.